spirituel aujourd'hui, j'ai pensé rendre hommage à 26 martyrs du Japon. Vous direz encore des martyrs, mais oui. Et hier, nous étions en Chine, mais aujourd'hui, c'est au Japon que nous allons. Et ça s'est déroulé il y a très très longtemps, en 1597. Hein, souvent, on ignore combien les Japonais, à cette époque, grâce à Saint-François-Xavier et grâce aux Jésuites, et aussi en partie un peu à des franciscains, eh bien, mon calcul qu'il y avait entre 3 et 10% de la population du Japon qui était devenue catholique entre à peu près la fin du XVIe siècle, justement au moment de ces persécutions que je vais vous raconter en 1597, jusqu'au renvoi définitif des chrétiens en 1614. C'est donc sur une période très courte. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On connaît l'Empire du Japon, on sait qu'il y a un empereur au Japon, mais ça a beaucoup changé. Le Japon, qui est situé, comme chacun sait, tout à fait à l'est de l'Asie, se compose, comme chacun sait aussi, de 5 grandes îles, puis d'un grand nombre de petites îles. Sa superficie est d'environ 365 km carrés, alors que le Québec est 4 fois plus grand, et même plus que 4 fois plus grand. Ici, au Québec, nous avons 1 500 000 km carrés. La France n'en a que 500 000. Nous sommes 3 fois plus grands que la France et 4 fois au moins plus grands que le Japon. Et si l'on s'en rapporte au récit des missionnaires de l'époque, là, vers l'an 1600, qui étaient mieux renseignés que personne sur le Japon à l'époque, ils disent, et je le lis parce que c'est très sympathique, les habitants de ces îles étaient, mais j'espère qu'ils le sont toujours, sagaces, spirituels, doués d'un jugement très droit et d'une mémoire qu'on ne trouve point chez les autres peuples. Vous savez, on dit souvent que les Asiatiques dans nos écoles réussissent mieux que à peu près tous les autres peuples de la Terre qui viennent vivre parmi nous. Ils ajoutaient « leurs manières sont nobles, leur caractère loyal ». Autrefois, le gouvernement au Japon était monarchique, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, la période que je vais vous présenter, eh bien, une révolution avait transformé le Japon en 66 principautés, ou si vous préférez, des royaumes indépendants, avec chacun un roi, puis un empereur au-dessus. C'était le bon moment pour propager l'Évangile, au fond. Saint François Xavier, qui, comme on le sait, ce grand missionnaire jésuite, le plus grand missionnaire peut-être de tous les temps à part Saint Paul, en moins de 11 ans de prédication, en serait arrivé, selon certains, c'est difficile à croire, à baptiser près de 2 millions. J'ai vu d'ailleurs à Rome le bras de Saint François Xavier qui est dans un magnifique reliquaire. J'avoue avoir médité plusieurs fois, y être retourné plusieurs fois, pour méditer devant ce bras qui a baptisé tant de gens. On ne peut s'empêcher de se trouver insignifiant devant des hommes d'une telle envergure. Saint François Xavier a abordé au Japon le 15 août 1519. Au bout de 26 mois, il avait donc baptisé des païens, converti des rois, ruiné l'autorité des bonzes, qui sont comme, vous savez, les bonzes, disons, des espèces de prêtres, shintoïstes, ou comme on disait autrefois, païens. Et puis, il avait aussi établi des missionnaires qui étaient chargés de continuer puis d'achever son œuvre. Il avait aussi évangélisé beaucoup de gens, formé des futurs prêtres et des catéchistes, etc. Il avait fondé les importantes chrétientés de l'île de Firando, celle de Satsuma et de Bungo. Ça comprenait presque toute l'île de Kyushu. Et il avait entamé la grande île de Niphon par le différents royaumes. Et puis, les membres de la compagnie de Jésus, il faut bien dire, avaient un monopole. Hein? Le Saint-Siège, le gouvernement de l'Église à Rome, interdisait à ce moment-là l'entrée du Japon à tous les autres missionnaires. Alors, ils ont continué avec un grand succès, les Jésuites, l'œuvre de Saint-François-Xavier, pendant 40 ans. Le christianisme a fleuri librement au Japon. Mais en 1582, un homme très ambitieux, d'origine obscure, s'est fait reconnaître comme empereur sous le nom de Taikozama. Cet empereur était des plus puissants. Il a réduit les autres rois à n'être que des gouverneurs, qu'il changeait à volonté. D'abord, il favorise la religion chrétienne. Il répète même plusieurs fois aux jésuites qu'il l'embrasserait volontiers si elle n'interdisait pas d'avoir plusieurs femmes. Mais ses sentiments favorables pour le christianisme, ça ne devait pas durer bien longtemps parce que sa bienveillance était prête à changer en haine. Dès qu'il prendrait peur de voir que cette religion puisse, en somme, l'arrêter de faire tout ce qu'il voulait sexuellement, puis d'amasser des fortunes. Un ex-bonze, qui était plutôt sectaire, et c'était un médecin d'ailleurs, et qui était chargé de rechercher dans tout le Japon ce qui pouvait satisfaire la luxure de l'empereur Taikozama, a voulu lui inspirer la même haine qu'il portait au cœur pour la foi catholique. Il lui a raconté toute une histoire. Il lui a dit que les femmes catholiques seules ne tenaient aucun compte de ses promesses, de son argent et de ses menaces. Et c'était assez vrai. Elles tenaient à être chastes et fidèles à leur mari, grâce à l'enseignement qu'elles avaient reçu. Donc inutile de penser qu'il pouvait coucher avec elles. Il lui a dit aussi que l'autorité des jésuites était plus forte que celle de l'empereur et qu'il finirait par gouverner à sa place et par livrer le Japon aux Espagnols, parce que la plupart des jésuites, n'est-ce pas, étaient des Espagnols. Et ce discours s'est adressé à la fois à toutes les passions de l'empereur, hein, ça n'a pas pris davantage pour qu'il proclame un édit de persécution. Alors là, les jésuites ont reçu ordre de sortir du Japon dans les 6 mois. La persécution n'a pas éclaté tout d'un coup. Pendant 10 ans, vraiment, l'orage s'est préparé, plutôt qu'il n'a éclaté. C'est assez curieux, c'est lent, c'est long. Et d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'il y avait tellement de Japonais catholiques qu'ils étaient un peu inquiets de persécuter les catholiques. D'ailleurs, jamais le nombre des chrétiens n'avait augmenté dans de telles proportions. Pensons que de 1591, le martyr va avoir lieu en 1597. Et de 1591 à 1592, plus de 12 000 adultes ont reçu le baptême. C'était au début, ça. La noblesse, surtout, se convertissait au catholicisme. Au mois de mai 1593, 4 religieux franciscains, malheureusement, sont arrivés au Japon. C'était à titre d'ambassadeurs, puisqu'ils n'avaient pas le droit de venir à titre de missionnaires. Hein? Tout était réservé aux jésuites. Mais ça leur a permis, comme ça, en tant qu'ambassadeur, de ne pas obéir à la bulle du pape Grégoire XIII, qui réservait, comme je vous dis, exclusivement aux jésuites l'évangélisation du Japon. Ça les empêchait même de séjourner dans l'Empire. Alors, ces franciscains audacieux baptisent donc 2 monastères, Sainte-Marie de la Portioncule, puis un autre monastère qu'ils appellent Bethléem. Ils prêchent malgré la défense qui leur en a été faite. Ils convertissent des masses de gens. Ils les baptisent. Alors là, l'empereur entre dans une grande fureur en apprenant qu'on enfreint ainsi les ordres. Un Espagnol y met le comble. Un laïc. C'est un fanfaron. Il se vante auprès d'un Japonais très important qui est de la cour de l'empereur que sa nation, déjà maîtresse de la moitié du monde, hein, l'Espagne, mais le sera bientôt du Japon. Et cela, comme toujours, par le moyen des missionnaires. Alors Taikozama, l'empereur, ordonne d'arrêter et de faire mourir tous les pères franciscains d'abord. Les franciscains apprennent cette nouvelle avec joie, car ce sont des chrétiens convaincus. Ils rendent grâce à Dieu. Et une foule de familles accourt pour être arrêté avec ses missionnaires et pour confesser leur foi en leur compagnie. Et là, la liste des premiers martyrs du Japon en comprend 26, qu'on divise ordinairement en trois groupes. Il y a 6 religieux franciscains, puis, chose étrange, il y a 3 religieux jésuites. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, puisqu'ils n'ont pas été condamnés à mort, eux. Et 17 laïcs japonais, qui sont membres de ce qu'on appelait le tiers-ordre de Saint-François. Ce sont des franciscains laïcs, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, parce qu'il y a tellement de laïcs dans ce groupe que c'est admirable. Et nous avons besoin, souvent, nous, les laïcs, de modèles. Voici quelques mots sur chacun. Je commence donc avec Saint-Pierre Baptiste, un franciscain, car ils ont été canonisés. Il est né en Espagne, à San Esteban. Il est envoyé en mission, puis il remplit d'abord à Manille, aux Philippines, la charge de gardien, c'est-à-dire de supérieur, d'un couvent de franciscains, puis celle de commissaire, puis finalement, il est le chef des franciscains apôtres du Japon. C'est lui qui a créé tout ce problème et ce trouble. Il avait le don des miracles et il guérit un jour de la Pentecôte, dit-on publiquement, une jeune fille qui était gravement atteinte de la lèpre. Le deuxième, c'est Saint Martin de l'Ascension. C'est un prêtre franciscain qui était né à Vergara, dans la province de Guipuscoa, en Espagne. Il avait déjà rempli les fonctions de prédicateur puis de professeur de théologie. C'était donc un homme averti. Il savait assez bien la langue japonaise, d'ailleurs. Il prêchait avec un zèle, convertissait beaucoup de monde. Un vrai prédicateur. On a de lui, d'ailleurs, une très belle exhortation qu'il a fait à ses compagnons lorsqu'on l'a conduit au martyr. Il était encore jeune, il avait 30 ans. Il y avait un autre franciscain encore, Saint-François Blanco, qui était aussi espagnol. On peut voir d'ailleurs dans les Bollandistes. Les Bollandistes, ce sont les jésuites qui ont colligé de façon fantastique dans des volumes et des volumes et des volumes des 8 saints. Et on peut voir dans les Bollandistes les belles choses qu'il écrivait à un de ses amis alors qu'il attendait le martyr. Il dit en particulier des nouveaux chrétiens japonais qui se disputaient le bonheur de mourir pour Jésus-Christ. Et c'est un peu, je pourrais dire la même chose. J'ai honte de moi-même en voyant des hommes si récemment entrer dans le sein de l'Église montrer un tel courage en face de la mort. Mais oui. Et Saint-Philippe de Las Casas, ou de Jésus, il faisait appeler aussi Saint-Philippe de Jésus en religion. C'est un autre franciscain qui était né, lui, à Mexico, de parents espagnols. Dès sa jeunesse, il s'était livré à des plaisirs. On dit que ses désordres étaient tels que sa famille en était réduite à le bannir, comme un objet de dégoût et de déshonneur pour toute la famille, là, vraiment. Il avait été traité donc très sévèrement. Ça l'a fait réfléchir, ça lui a ouvert les yeux, il a vu son malheur, puis il a pleuré. Il s'est converti, puis il est devenu franciscain. Mais l'habitude de la luxure, du sexe, ça l'a suivi dans le cloître. Il a lutté d'abord, puis il a été vaincu. Alors il a décidé de quitter les franciscains. Puis s'est plongé de nouveau dans toutes sortes de désordres. Et ses parents, pour l'éloigner d'eux, l'ont fait passer en Chine pour y faire du commerce. Là, en Chine, le souvenir du couvent, où il avait été heureux au fond, s'empare tout entier de lui. Et ça l'arrache définitivement à toutes ses insignifiances et ses voluptés. Alors, il s'enrôle de nouveau chez les franciscains. On l'accepte au monastère des Anges à Manille, aux Philippines. Ses parents, apprenant cette nouvelle conversion, désirent le revoir. Alors, il s'embarque pour ce qu'on appelait la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique. Mais chose curieuse, il s'est embarqué en Chine, je vous le dis là. Le navire est soufflé, semble-t-il, par la Providence. Et on raconte, et c'est une légende, qu'il voit une croix du côté du Japon, comme un présage de son martyr. Là, une tempête oblige le navire à accoster dans un port japonais. Philippe se retire au monastère de son ordre, à Meako, au Japon. C'est le moment où l'on fait les arrestations. Il arrive au bien mauvais moment, hein. Il se trouve sur la liste des prisonniers, tout subito. Mais le jour du triomphe, il embrasse avec tendresse la croix, où il doit mourir. Et comme elle est mal construite, il souffre un peu plus que les autres, et il se contente de murmurer avec beaucoup de tendresse, « Jésus, Jésus !» Et on le perce alors de 3 coups de lance, de sorte que, arrivé le dernier au Japon, il entre le premier au ciel. Il n'a que 23 ans. Et maintenant, un autre saint de martyrisé au Japon, un autre franciscain, Saint González Garcia, c'est un nom qu'on voit aujourd'hui, ce González Garcia, qui était un frère convert, comme on disait autrefois. Bon, disons, un franciscain non-prêtre. Il était né dans les Indes orientales d'un père portugais et d'une mère indienne. Bien oui, déjà, au XVIe siècle. Il se livre d'abord au commerce. Et dans un voyage qu'il fait aux Philippines, il est frappé, écoutez bien ça, de la pauvreté des franciscains qui suivent à l'époque la réforme austère de Pierre d'Alcantara. Et devant cette pauvreté magnifique, il renonce à ses immenses richesses pour porter la bure des franciscains. Le bienheureux Pierre-Baptiste, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Saint-Pierre-Baptiste, l'amène avec lui au Japon, parce qu'il sait déjà la langue japonaise. Alors, le jour de son martyr, il exhorte du haut de sa croix les Japonais à reconnaître la vérité de la religion de Jésus-Christ. Il était d'une rare humilité. Il avait tout sacrifié. Et avant d'expirer, il n'ose pas se servir d'autres paroles que de celles du bon larron. « Seigneur, souvenez-vous de moi. » Un autre religieux franciscain, qui est un frère encore, Saint François de Saint-Michel, était né non loin de Valladolid, et il quitte l'ordre des Cordeliers pour celui des franciscains, les franciscains l'ont attiré, parce qu'il espérait y trouver justement plus d'austérité, comme Saint González Garcia le précédent. Envoyé aux îles Philippines, il y est favorisé d'un curieux don des miracles qui attire les foules. Il rend la parole d'ailleurs à une femme indienne, une amérindienne, et il lui administre le baptême. Par un signe de croix, il guérit un amérindien mordu mortellement par un serpent. Sa mémoire est si prodigieuse qu'on la regarde comme un don surnaturel. Amené au Japon par le bienheureux Pierre-Baptiste, Saint-Pierre-Baptiste, c'est lui qui a fait le plus de conversions. Et voici maintenant les noms des 17 laïcs japonais qui aidaient les pères franciscains et qui vivaient avec eux, comme s'exprime le pape Urbain VIII le 14 septembre 1697 dans une bulle. Ils ont partagé leur prison et leur martyr. Donc, 17 laïcs japonais, des japonais, du tout début de cette église japonaise si admirable. Le premier, c'est Saint-Côme Tachégia, qui venait du petit royaume, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de petits royaumes là-bas, du royaume d'Oaris, Saint-Michel Kozaki, qui venait du royaume d'Isk, qui était le père de Thomas Kozaki, un des 3 enfants dont je vais vous parler tout à l'heure, des enfants extraordinaires. Saint Polybarki, qui venait lui aussi du royaume d'Oaris, comme Saint Côme. Saint Léon Karazumo, qui était le frère cadet du bienheureux Polybarki. Il était catéchiste, interprète des pères, plein de zèle pour les œuvres de charité, bon surtout pour les malades incurables. Et voici un enfant, Saint-Louis, 11 ans, l'âge de mon petit-fils. Lui, Antoine et Thomas servaient à l'hôtel chez les pères franciscains. Ils auraient pu éviter d'être mis sur la liste des martyrs, mais ces petits-enfants ont réclamé cette faveur en pleurant et en priant. en suppliant. Curieux. Un païen a proposé à ce saint Louis, enfant de 11 ans, de renoncer à la foi chrétienne pour échapper à la mort. Alors il répond, « C'est au contraire vous qui devez vous faire chrétien, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de se sauver. » À leur arrivée au lieu du supplice, il demande quelle est sa croix, et quand il la voit, il y court avec joie. Ce qui émeut évidemment tous les spectateurs, parce qu'il faut dire que parmi les spectateurs, il y avait des chrétiens. Hein? Il y en avait tellement de chrétiens, de toute façon, on ne pouvait pas les empêcher. Puis il y avait beaucoup de païens, ou de shintoïstes, si on préfère, ou de bouddhistes. Lorsqu'il y est attaché, ses yeux, ses lèvres sont souriantes, et le mouvement de ses petits doigts, tout ça indique une espèce de contentement qui rayonne sur son visage. Il y a un autre enfant, lui, de 13 ans, Saint-Antoine, né à Nagasaki. Ça vous dit quelque chose, Nagasaki, qui est une des villes chrétiennes du Japon, pour ainsi dire. Et au moment où il approche du supplice, ses parents, qui sont bons chrétiens d'ailleurs, mais qui sont vaincus par leur attachement à leur enfant, ils le supplient de ne pas mourir si tôt, puis d'attendre pour confesser sa foi, d'attendre un âge plus avancé. Mais leur enfant ne se laisse pas attendrir, ni par les gémissements et les larmes de sa mère, ni ceux de son père. Il déclare, « Dieu me donnera le courage nécessaire pour cette lutte. Cessez donc vos conseils, papa, maman. N'exposez pas ainsi notre sainte foi au mépris et à la risée des païens. » Alors le magistrat est ému de ce spectacle, cet enfant de 13 ans. Alors, il appuie les réclamations des parents, il promet à Antoine des richesses, des honneurs, il emploie tout pour le séduire, parce qu'il a vraiment pitié de cet enfant de 13 ans. Et ce petit saint Antoine dit, « Je méprise vos promesses et la vie elle-même. La mort ne me fait pas peur. La croix où je veux être attaché ne me trouble pas. C'est au contraire ce que je désire uniquement, par amour pour Jésus qui a voulu expirer aussi sur une croix pour nous sauver. » Puis, il s'adresse à son père et à sa mère et leur dit adieu, en promettant de prier pour eux dans le ciel. Et quand il est attaché et élevé sur sa croix, il invite le père Pierre Baptiste à chanter le psaume « Laudate pueri Dominum ». Louez le Seigneur, chers enfants. Laudate pueri Dominum. Et comme le père Jean-Baptiste, Pierre Baptiste plutôt, est absorbé puis ravi, comme en extase, il répond pas. Antoine entonne tout seul le psaume qu'il connaît. Il le chante d'une voix solide. Il arrive au Gloria Patri lorsque le fer de la lance perce son cœur. Mourir en disant gloire au Père. Gloire à Dieu notre Père. Il y a aussi saint Thomas Kozaki, dont je vous ai mentionné le nom tout à l'heure. C'est un enfant de 14 ans, toujours un peu plus vieux, fils de Michel Kozaki, dont je vous ai parlé, qui a eu la gloire et le bonheur de souffrir pour Jésus-Christ avec son père, avec la même constance que les deux autres enfants. Puis il y a saint Matthias. Quand on est venu au couvent des franciscains de Pilaco pour y dresser une liste de 12 chrétiens, de ceux qui vivaient avec les pères, pour les crucifier avec eux, mais l'un de ces chrétiens, qui se nommait Matthias, était pourvoyeur du couvent. Il était absent. Alors, les exécuteurs des ordres le réclament partout. Ils disent, « Où est Matthias? Que Matthias se présente? » Puis un chrétien du voisinage, qui porte le même nom, Matthias, l'entendant prononcer, se présente et dit, « Voici un Matthias, ce n'est pas celui que vous demandez, mais moi aussi je suis chrétien et l'ami des pères. » Alors, il décide de l'arrêter. Puis, il doit cette étrange circonstance, ce qu'il a appelé le bonheur du martyr. Il y a aussi saint Bonaventure, ou saint Ventura, qui baptisé tout jeune, puis élevé dans le paganisme malgré son baptême, a été plus tard éclairé intérieurement d'une lumière divine, il s'est fait instruire dans la foi de son baptême, puis a juré ses erreurs. Il y a saint Joachim Sakakibara, un médecin des pères franciscains. Saint François de Meako, un autre médecin qui avait composé quelques traités pour défendre la religion chrétienne contre les préjugés des Japonais. Saint Thomas d'Oki, qui servait d'interprète au Père, Saint Jean Quimoyard, Saint Gabriel de Duisco. Je donne les prénoms parce que ça peut plaire à certaines personnes. Celui qui s'appelle Gabriel, j'en connais, Saint Gabriel de Duisco, originaire du royaume d'Isque, qui était âgé de 19 ans seulement, qui était un élève des franciscains. Et Saint Paul Suzuki, un nom très connu, Suzuki, hein, du royaume d'Oaris, c'était un catéchiste et interprète et auteur de quelques écrits pour l'instruction des néophytes. Il y a deux autres japonais, qu'on appelle les deux surajoutés, qui ont été comme surnuméraires du martyr, et qui se sont ajoutés à tout ce groupe. Il me reste maintenant à dire quelques mots sur les trois japonais jésuites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont été arrêtés et mis en prison le 9 décembre 1596. On sait que la sentence de mort n'atteignait pas les jésuites, je vous l'ai dit. Elle était restreinte aux franciscains. Or, lorsque le 31 décembre 1596, l'empereur Taiko Zama a donné l'ordre de faire partir d'Osaka, le père franciscain et les compagnons de sa prison, eh bien, les trois jésuites japonais ont été de ce nombre. Le gouverneur n'osa pas les délivrer, il avait peur de désobéir, il avait peur de faire un faux pas. Il les a fait partir pour le supplice avec les autres prisonniers. Ces trois jésuites, le père Paul Miki, le père Jean de Gotteau et le père Jacques Kizaï. Saint Paul Miki est très célèbre. Ce jésuite, un des premiers jésuites japonais, sinon le premier, était d'une famille noble chrétienne. Il avait été élève des jésuites dès l'âge de 11 ans. Il a été, dès son jeune âge, un modèle de ferveur. Et à 22 ans, il a embrassé la vie religieuse. Et par sa science, sa modestie, et aussi son éloquence, il est devenu le plus célèbre des missionnaires de la compagnie au Japon. La compagnie de Jésus. Et celui qui fait le plus de conversions, c'était lui. Quand il est mis en prison, quelques chrétiens font des démarches pour obtenir sa libération. Il leur en fait des reproches, il leur dit, « Est-ce donc ainsi que vous m'aimez? Quoi, vous avez voulu me priver de cette immense faveur de Dieu pour laquelle vous auriez dû, au contraire, vous réjouir et louer son infinie bonté? » Quelle foi, hein? Et pendant la route, en allant au supplice, le père Paul Miki ne peut pas contenir sa joie, il n'y arrive pas. Il ne cesse pas d'exhorter ses compagnons à être ferme, constant. Il exhorte ses gardiens et même les païens à embrasser la religion catholique. On se presse autour de lui pour baiser ses habits. Quand il est sur sa croix, il prêche encore Jésus-Christ. Et il déclare, « Arrivé au terme où vous me voyez, je ne pense pas qu'aucun de vous me croit capable de trahir la vérité. Eh bien, je vous le déclare. Il n'y a pas de meilleur moyen de salut que la religion chrétienne. Et comme cette religion nous ordonne de pardonner à nos ennemis et à tous ceux qui nous ont offensés, je pardonne quant à moi très volontiers à l'empereur et aux auteurs de ma mort. Je les conjure de recevoir le baptême. » Savez-vous qu'aujourd'hui, le 12 septembre, dans toute l'Église catholique, on lit l'Évangile à la messe, où il est dit, si vous aimez vos ennemis, si vous faites du bien, si vous prêtez sans rien espérer en retour, voilà ce qu'il faut faire. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Pardonnez, vous serez pardonné. Pardonnez, vous serez pardonné. Et c'est ce qu'il fait. Saint Jean de Gotteau, lui le père de Gotteau, jésuite, japonais, qui était né de parents chrétiens en 1578, il y avait déjà des chrétiens, des catholiques, dans l'île de Gotteau, est entré dans l'ordre des Jésuites peu avant son arrestation, et lorsqu'il a été sur le point d'être attaché à sa croix, son père est venu lui faire ses adieux. Alors Jean, alors âgé de 19 ans, lui a adressé le premier la parole et lui a dit, « Vous le voyez bien, papa, le salut éternel doit être préféré à tout. Ayez soin de ne rien négliger pour vous l'assurer. » Et son père lui a dit, « Mon fils, je vous remercie de votre excellente exhortation, et vous aussi en ce moment, soyez ferme et supportez avec joie la mort, puisque vous la subissez pour la cause de notre sainte foi. Quant à moi et à votre mère, nous sommes prêts, s'il le faut, à mourir pour la même cause. » Que des parents chrétiens admirables chez ces Japonais de cette époque. Il a eu le courage d'assister à la mort de son fils. Il s'est retiré teint de son sang. Il avait des taches de sang sur ses vêtements. Il les baisait avec respect, car il savait que son fils était mort comme un saint. Saint Jacques Kisaï, lui, l'autre, le troisième jésuite japonais, était un vieillard de 64 ans, catéchiste chez les jésuites. Il est chargé surtout d'exercer l'hospitalité. Sa pratique de piété, la plus habituelle, était de méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme on lui donnait de grands témoignages de vénération en sa qualité de martyr, il se contentait de répondre, « Je suis un grand pécheur. » Alors le 2 janvier 1597, les 24 prisonniers de Méaco sont conduits sur la grande place. Ils ont le bout de l'oreille gauche coupé. Ce qu'on coupe ainsi au martyr est recueilli puis vénéré. Et le père Augustin, aux mains duquel les chrétiens remettent les 24 reliques, les lève vers le ciel en disant, « Je vous offre, mon Dieu, ces fleurs de l'Église du Japon. » Et ensuite, une flétrissure qui est réservée aux plus grands malfaiteurs du Japon, nos saints martyrs sont promenés sur des espèces de chars dans la ville. Mais partout où ils doivent passer, les habitants ont sablé les rues. C'est un honneur qui est exclusivement réservé aux rois, les petits rois, là. On se presse aux portes, aux fenêtres, sur les toits, et partout éclatent des témoignages de sympathie et d'admiration, hein, parce que la grande partie de la foule est catholique. Les trois enfants, surtout, attirent le regard et font couler les larmes, hein, les trois enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et beaucoup de chrétiens essaient de monter sur les chars pour avoir même une part aux martyrs. Et on a beaucoup de peine à les écarter à grands coups de fouet et de bâton. Mais l'un d'eux, qui va s'ajouter, François Féinte, il reste cramponné. Alors, c'est le 25e martyr. Quand les saints sont de retour à la prison, l'un des trois jésuites, le père Ponicchi, embrasse les pères franciscains puis leur témoigne vivement sa reconnaissance des souffrances dont il leur est en quelque sorte un peu redevable, si on peut dire, car eux seuls, et non les jésuites, se trouvaient condamnés à mort dans l'édit de l'empereur. Alors il les remercie aussi de ce qu'il va être martyr avec eux. On conduit ensuite les saints à Osaka, puis à Sakaya, puis finalement à Nagasaki, et le voyage est long et pénible à cause du froid, de la neige et des glaces. Mais d'ailleurs, ils ne veulent pas recevoir les adoucissements que tous les gens, même les païens, qui sont bon cœur, hein, s'empressent à leur apporter, mais ils ont une grande consolation. C'est lorsque leur groupe s'augmente de deux fervents chrétiens, là, Pierre Sukejiro, puis évidemment François Féilente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça fait 26. Sur leur passage, ils soulèvent l'admiration de tout le monde. Les païens murmurent contre l'empereur. Il dit, c'est une folie, c'est une injustice criante. Beaucoup se convertissent. Et les bons exaspérés disent que l'empereur ne pouvait choisir un meilleur moyen de fortifier puis de propager la religion catholique, la religion chrétienne. Les martyrs voyagent ainsi pendant un mois. Et le 4 février, ils rencontrent les deux pères jésuites, Pazio et Rodriguez, venus pour leur offrir le secours des sacrements. Mais le gouverneur de Nagasaki ne leur en laisse pas le temps. Ils ne peuvent que se confesser. Le lieu du supplice est une colline aux environs de Nagasaki. On peut voir ça quand on va à Nagasaki. Ça s'appelle le Mont des Martyrs ou la Sainte Colline. C'est le grand romancier catholique japonais Shusaku Endo, E-N-D-O. Dans différents ouvrages, il en parle dans des nouvelles, c'est-à-dire des petits récits qu'il a écrits, qui s'appellent « Douleur exquise », publié chez De Noël, il parle de ces choses-là, c'est admirable. Et alors donc, les croix au Japon sont déjà formées, elles ont vers le bas, parce qu'ils vont être crucifiés, elles ont vers le bas une pièce de bois en travers sur laquelle les crucifiés ont les pieds posés. Au milieu, une espèce de billot aussi qui est destiné à soutenir le poids du corps. Alors on attache les martyrs avec des cordes par les bras, par les cuisses, par les pieds. Ils sont un peu écartés. Et on ajoute, c'est une coutume locale que je ne comprends pas très bien, un collier de fer qui leur tient le cou raide. Quand ils sont ainsi attachés, on élève la croix, puis on la place dans son trou. Et ensuite, le bourreau prend une lance et en perce le crucifié d'une certaine manière qui l'a fait entrer par le côté puis sortir par l'épaule. Quelquefois, ça se fait en même temps des deux côtés. Et si le patient respire encore, bien, on redouble sur le champ. Alors, tous vont se rendre vers leur croix avec un empressement qui frappe les païens de stupeur. Puis un signal donné, ils sont attachés à leur croix, qui sont placées à peu près, disons, à quatre pas de distance l'une de l'autre, sur une seule ligne. Il y a des images de ça. Moi, je voyais ça dans mon enfance, ça m'impressionnait beaucoup, le martyr des Japonais. Quand j'avais 10 ans que je regardais ça. Les croix se dressent, finalement, elles sont fixées, les martyrs ont le visage tourné vers la ville. Et le chef, je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint-Pierre Baptiste, n'est-ce pas, entonne le Benedictus, le beau chant, le Benedictus, hein? Que les autres continuent. Et pour lui, il tombe, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une espèce d'extase où il demeure jusqu'au dernier soupir. Le père Paul Micky, le jésuite, prêche à la foule. Le petit Antoine, dont je vous ai parlé, chante le psaume. Enfant, louez le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le père Gonzalez répète en mourant les paroles du bon larron. Hein, Seigneur, souvenez-vous de moi. Et tous prient, puis attendent le coup mortel, avec une étonnante joie. Et enfin, un coup de lance envoie leurs âmes dans le ciel auprès de Dieu. Mais l'évêque du Japon, qui n'a pas obtenu la permission d'assister à la mort des martyrs, les aide du moins de ses prières. Et le soir, il vient se prosterner au pied des croix pour vénérer les victimes. Et tous les fidèles s'y pressent, et en vain le gouverneur de Nagasaki menace de brûler toutes les maisons de la ville si l'on n'arrête pas. Alors l'évêque, à cause de cette menace, croit qu'il est préférable de temporiser. Alors il défend sous peine d'excommunication de franchir les barrières que les soldats ont élevées là, autour des croix. Et tous les chrétiens lui obéissent. Telle est la première phase de la persécution qui va ne finir qu'avec l'extinction du christianisme au Japon en 1614. Il est difficile d'évaluer combien de sang a été versé. Le nombre des chrétiens s'est élevé, selon certains auteurs, jusqu'à 2 millions de catholiques. Et lorsque quelques-uns apostasiaient, ils étaient souvent remplacés par des païens même, étranges, qui se convertissaient, et qui recevaient ainsi le baptême de sang. C'est ça qu'on appelle le baptême de sang. Quand un païen se convertit, puis il n'a pas le temps d'être baptisé avec de l'eau, le fait de verser son sang, on appelle ça le baptême de sang. Et la plus grande partie de ce sang marquera d'une espèce d'ignominie éternelle un pays. Et je regrette de le dire, c'est la Hollande. Car c'est la Hollande qui a vendu l'Église catholique du Japon. C'est la Hollande, les protestants de Hollande à l'époque. Il faut comprendre que les protestants ne nous aimaient pas du tout à cette époque et qu'on les aimait pas tellement non plus. Hein. Que c'est triste au fond. Et la Hollande, dans sa haine du catholicisme, dans son esprit aussi de commerce. Les Hollandais sont réputés pour savoir bien faire du commerce. Il y a de très grandes industries en Hollande. Mais là, les représentants de la Hollande ont exposé à l'empereur japonais que les missionnaires étaient le rebut de l'Europe. Les missionnaires catholiques, particulièrement les jésuites, et qu'aucun pays civilisé ne pouvait les souffrir. Que l'Espagne seule les envoyait comme espions dans les continents étrangers pour s'en emparer. Alors, ce fut la cause une espèce de proscription universelle et tout le Japon ne fut bientôt qu'une mare de sang. Et pour le fermer à toute civilisation, on en a permis l'entrée seulement aux Hollandais. Tous les autres étrangers en ont été exclus, même les Chinois, même les Coréens, des voisins. Et personne ne put vivre ni aborder au Japon sans fouler aux pieds le crucifix. Les Hollandais l'ont foulé pour avoir le monopole du commerce. On a pu traiter enfin avec le Japon que le 9 octobre 1848, quand dans un traité avec la France, il était écrit, il sera permis aux Français de faire du négoce au Japon à condition qu'ils marchent, à condition qu'ils marchent sur l'image de la rédemption du monde. Au contraire, c'est écrit, les sujets français au Japon auront le droit d'exercer librement leur religion. Et à cet effet, ils pourront y élever, dans le terrain destiné à leur résidence, les édifices convenables de leur culte, comme églises, chapelles et cimetières. Et alors ces 26 martyrs ont été déclarés bienheureux, eux qui ont été suppliciés à Nagasaki, par un décret du 10 juillet 1627, et le 11 septembre de la même année, les 23 membres de l'ordre de Saint-François ont été déclarés bienheureux. Les trois jésuites, c'était chose étrange, 2 ans plus tard. Enfin, les 26 martyrs ont été canonisés, eux, ensemble, le 8 juin 1862, le jour de la Pentecôte. Et voici, pour compléter, le résumé du récit d'un martyr japonais, un aveugle. Je dédie ce court récit à une grande amie qui m'écoute et qui ne voit plus depuis l'âge de 11-12 ans, je crois. Céline. C'est Damien l'aveugle, martyr japonais en 1606. Petite anecdote, quand les missionnaires sont arrivés au siècle dernier au Japon, ils ont été surpris lorsqu'ils ont vu venir vers eux en 1867 dans l'église d'Ura, aujourd'hui à Nagasaki, des Japonais chrétiens, qui c'étaient des descendants de la communauté établie à la fin du 16e siècle, puis au début du 17e siècle, par les jésuites. On croyait que les Kirishitan, comme on disait, les chrétiens, avaient disparu à la suite de cet édit de proscription qui s'appelle christianisme en 1614, étant donné que le Japon était fermé aux étrangers. Alors, dans ce récit de la mort de Damien l'aveugle, on dit que quand on est venu l'arrêter en 1606, il a dit à sa femme ce qu'il en pensait, puis s'est préparé le mieux qu'il put. Je lis la lettre d'un missionnaire de l'époque. Il se prépara le mieux qu'il put à ce que par l'effusion de son propre sang, il puisse témoigner de l'amour qu'il portait à celui qui a répandu le sien pour nous tous sur la croix. Se lavant la face, les mains et tout le corps, comme les Japonais ont coutume de faire quand ils sont invités aux noces, ou qu'il leur convient de paraître en quelque fête et solennité publique. Et cela fait, ayant dit le dernier adieu à sa femme, qui pleurait, il sortit tout joyeux de sa maison, accompagné de 2 autres chrétiens, ses amis, pour comparaître avec eux. On lui fit le commandement de la part du roi Morindono, qu'il eut à renoncer à son baptême et de quitter entièrement le christianisme avec promesse que s'il condescendait aux volontés de Morindono, il serait pourvu de train de vie et revenu gentilhomme d'un beau et commode logis. Bref, qu'on lui ferait un tel parti qu'il serait beaucoup mieux qu'il n'était. Mais qu'au contraire, il était si mal avisé de contrevenir à ses ordonnances. On était là venu expressément pour, sur le champ, lui faire perdre la vie. Et Damien a répondu courageusement que de 2 choses si contraires, entre lesquelles il avait le choix, subir la mort pour l'amour de son Dieu, lui était 1000 fois plus agréable que toutes les offres des biens et commodités temporelles. vu qu'il était très assuré que la seule loi de Jésus-Christ et non aucune des sectes japonaises était la voie très certaine pour conquérir la vie perdurable, c'est-à-dire la vie éternelle. Et sur quoi il déclara ou expliqua plusieurs points et mystères de la religion catholique, tant en présence de ses conseillers d'État que de plusieurs autres qui les assistaient. Il les a exhortés de la suivre et de l'embrasser, satisfaisant à toutes les objections que ces gens-là lui faisaient, au contraire, le tout avec une telle prudence, une telle véhémence d'esprit, une telle grandeur de courage, que ces païens en demeurèrent confus de honte et comme éperdus d'étonnement. Alors à la fin, les deux délégués officiers de justice, voyant qu'ils perdaient entièrement leur temps à vouloir induire Damien l'aveugle à l'apostasie, donnèrent l'arrêt de mort contre lui et résolurent de le faire dépêcher le plus secrètement qu'il serait possible, de peur que si une telle exécution venait aux oreilles des chrétiens, ne fasse naître quelque tumulte parmi le peuple, ou du moins ne pût être la cause que plusieurs s'en aillent demeurer en quelque autre pays, abandonnant les terres à leur seigneur. Alors donc, après le coucher du soleil, ils renvoyèrent les deux chrétiens qui avaient accompagné ce bon aveugle, et aux environs de minuit, ils le firent monter à cheval et conduire avec des flambeaux dans un lieu qui est hors de la cité, sur le bord de la rivière, où l'on a coutume de justicier les criminels, condamnés à perdre la vie pour leur forfait. Et cela, l'heureux Damien, l'aveugle, le reconnut clairement en disant par les chemins aux soldats qu'il conduisait, « Je vois, curieux, je vois bien, quoique aveugle, que nous allons à la place de la justice publique, à ce que vous m'ôtiez la vie, d'autant que je suis chrétien, et en ce que vous ne trompez point mes frères et amis. » À quoi l'exécuteur de la haute justice répondit que Maureen Donneau l'avait ainsi ordonné, indigné de ce qu'ayant fait publier par édit auprès qu'aucun prêcheur de l'Évangile ne demeure à Manguchi. Lui, néanmoins, y avait contrevenu. Il avait été si hardi que de s'y prêter, mais d'exercer encore l'office de prédicateur. Alors Damien, descendant de cheval, s'est jeté à genoux et a dit haut et clair, d'un visage assuré, que non seulement il endurait très volontiers et d'une franche gaieté de cœur la mort pour la foi de laquelle il faisait profession. Et ce qu'ayant dit, il commença de réciter des oraisons vocales, lesquels ont été suivis d'une petite méditation, puis sans donner aucun signe d'effroi ou d'étonnement, il étendit le cou devant le bourreau, et le bourreau avait déjà levé l'épée, et il lui dit, comme plusieurs témoins l'ont assuré avec serment, et le bruit en est commun dans toute la ville de Manguchi, que s'il voulait renier la foi chrétienne, il ne le mettrait point à mort, et à quoi cet aveugle généreux a répondu d'un courage invincible, d'une voix et visage sans peur, qu'il était résolu de mourir chrétien et que pour autant, sans autre attente et délai, il voulait faire son office, et comme il le fit. Aussi, il a perdu ainsi la tête. C'est envoyé au général de la Compagnie de Jésus par Monseigneur l'évêque du Japon le 8 mars 1606. C'est étonnant comme ces Japonais avaient une foi inébranlable. Et ça nous fait penser au texte du psaume aujourd'hui dans la messe. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. C'est ce qu'ont fait ces martyrs japonais. C'est ce qu'ont fait ces hommes, ces femmes, ces enfants absolument admirables.